Alors, j'ai un problème. Tu as posé une question contradictoire. Tu as dit le Rav Cherki est déjà connecté, et après tu demandes s'il est déjà là.
J'ai mis la caméra. Mais après, c'est faux, il faut croire. C'est tout possible.
D'accord. Bon, j'admets, je pardonne. Bon. Bonjour tout le monde. Mazal Tov pour la destruction de notre ennemi. Nous n'avons pas dit Tachanoun ce matin, et David a eu la gentillesse de me demander si je voulais bien parler de la manière dont Dieu gouverne son monde. Est-ce qu'il le fait directement? Est-ce qu'il le fait par des intermédiaires? Ce qui est une question a priori absolument inutile. Nous qui connaissons la Torah, nous savons que Dieu agit par l'intermédiaire d'intermédiaires. Cependant, il est intéressant de rentrer un peu dans le détail. Il est donc intéressant d'entrer dans le détail de ces idées-là. Simplement, étant donné que nous venons de recevoir l'annonce que très bientôt il y aura une alerte, il est tout à fait possible qu'en fait notre étude ne soit pas possible aujourd'hui. Mais bon, on va quand même commencer par quelque chose, je pense que c'est important. D'abord, je voudrais citer un enseignement de Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari. Dans la cinquième partie, qui est la partie philosophique, Rabbi Yehuda Lévi demande par quelle manière est-ce que Dieu intervient dans son monde? Et il donne à cela quatre manières différentes que choisit le Créateur pour intervenir dans l'histoire. La plus élevée, c'est la manière directe. C'est ce qu'on appelle le miracle. C'est-à-dire qu'il y a parfois des phénomènes qui accompagnent la révélation, qui sont totalement miraculeux. Par exemple, la nuée, la colonne de feu et la colonne de nuée qui accompagnaient les enfants d'Israël dans le désert, étant donné que ces colonnes ne sont absolument pas le fruit de la nature, ça veut donc dire que c'est une présence divine évidente. Ou bien quand vous avez des miracles, tout simplement la mer rouge s'ouvre, eh bien vous savez que Dieu intervient directement, il a ses manières à lui d'intervenir. Mais il y a quand même d'autres manières d'intervention, et l'une, et ce sont deux, il s'agit de la nature. La nature étant créée par Dieu, alors elle est également un moyen de révélation de Dieu dans l'histoire. Il y a également donc intervention de Dieu dans l'histoire à travers les lois de la nature. Et il y a dans les lois de la nature deux manières différentes de se manifester. L'une, ce qu'on appelle le déterminisme, et l'autre, ce qu'on appelle le hasard. Alors, en général, les religieux ont tendance à préférer les phénomènes nécessaires déterminés au hasard. C'est-à-dire, le hasard, en hébreu mikré, n'a pas une bonne réputation chez les juifs religieux. Mais en vérité, c'est exactement le contraire qui est vrai. Parce que les lois de la nature ont été fixées à l'avance, et donc depuis des milliards d'années, nous savons que les pommes tombent, et qu'elles tombent d'ailleurs pas loin du pommier. Et nous avons même des témoignages comme quoi les pommes tombaient avant même que Isaac Newton ne l'ait découvert. Ça, c'est donc une des premières manières, mais il y a également à travers les lois du hasard. C'est bizarre de dire ça, mais il y a des lois du hasard. Ça veut dire qu'à travers des phénomènes indéterminés, Akadosh Baruch Hu décide de se manifester. C'est-à-dire que si vous avez statistiquement un phénomène qui est que telle ou telle chose doit se passer statistiquement, alors il y aura toujours une marge qui est en dehors de la statistique, et Akadosh Baruch Hu va se servir de cette marge pour intervenir. Je vais vous donner un exemple de ça dans la Guémara. Imaginez qu'à Rosh Hashanah, les enfants d'Israël sont, chas v'shalom, des Réchaïm, et donc ils ne méritent pas beaucoup de pluie, seulement un tout petit peu de pluie. Mais que, entre Rosh Hashanah et la saison des pluies, c'est-à-dire après Soukhot, les enfants d'Israël font Teshuvah. Que va faire Akadosh Baruch Hu de son premier décret qui est d'envoyer un peu de pluie? La réponse de la Guémara est, mais bien sûr, il va donner la quantité qu'il a fixée à Rosh Hashanah, mais ça va tomber, chaque goutte va tomber précisément là où elle doit tomber. Et si c'est le contraire, si par exemple les enfants d'Israël sont méritants à l'époque de Rosh Hashanah, et donc il leur est donné beaucoup de pluie, mais qu'ils deviennent méchants après Rosh Hashanah, la pluie tombera, la même quantité qui a été décidée à Rosh Hashanah tombera, mais elle tombera dans des ravins, elle tombera dans l'abîme, elle ne donnera pas sa bénédiction. Ça veut donc dire qu'il y a, à travers des phénomènes qui ne sont pas totalement déterminés, tels que les gouttes de pluie, Akadosh Baruch Hu intervient également. Ça donc, c'est la. Donc, pour l'instant, nous avons donc le miracle, nous avons les lois fixes de la nature et les lois indéterminées de la nature. Ce qui est devenu une chose d'ailleurs assez évidente pour ceux qui ont étudié la physique quantique. Pour la physique quantique, vous savez qu'un photon n'a pas une trajectoire déterminée dès le départ. Et il y a la quatrième manière dont HaKadosh Baruch Hu se manifeste, et c'est ça qui nous intéresse. Je prends ici l'enseignement de Rabbi Yehuda HaLevi. HaKadosh Baruch Hu se manifeste à travers la liberté humaine. C'est-à-dire, nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre en hébreu, Bechira Chofshit, et c'est à travers le libre arbitre de l'homme que Dieu agit. Il y avait à ce propos une belle expression de un de mes maîtres, le Rav Tzvi Yehuda Kouk, qui disait toujours que Dieu agit Betochenu Mitochenu. C'est-à-dire, il agit à travers nous, à partir de nous. C'est nous qui orientons la providence divine. Alors, ça veut dire que, si vous voulez, c'est exactement le contraire de l'objection des musulmans. Les musulmans affirment que le libre arbitre est une hérésie. Pourquoi? Parce que si c'est l'homme qui décide et pas Dieu qui décide, ça limite la toute-puissance de Dieu. Mais d'après la tradition juive, c'est exactement le contraire. Dieu est tellement grand qu'il peut agir à travers la liberté qu'il donne à l'homme. Vous savez, il y a une question qui a été posée par les maskilim. Vous savez ce que c'est les maskilim? Les maskilim, ce sont les premiers juifs à tendance un peu chilonite qui ont commencé à agir vers la fin du XVIIIe siècle et qui ont été très puissants au XIXe siècle. Et les maskilim ont posé une question philosophique au Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'est le troisième rabbi de Lubavitch. Le dernier était le septième, là je parle du troisième, qui s'appelait comme par hasard Menachem Mendel, comme le septième. Et la question qu'ont posée les maskilim, c'est une question bien connue chez les logiciens, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Réponse du Tzemar Tzedek, mais bien sûr qu'il le peut. Non seulement il le peut, mais il l'a fait quand il a créé le libre arbitre. Le libre arbitre est une pierre que Dieu a créée et qu'il ne peut pas soulever, étant donné qu'il a donné la liberté à l'homme. Ce qui veut dire que les actions de la providence agissent essentiellement à travers la liberté humaine. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda Halevi. Ce qui va en droite ligne contre ce qu'on entend parfois chez des familles qui ont eu des malheurs et qui vous diront, mais non, tout ça, ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui décide. C'est totalement faux, c'est une influence de l'islam. D'après le judaïsme, ce qui arrive aux hommes n'est pas forcément le fruit d'une décision divine, au contraire, ça passe par le libre arbitre des hommes. Ça, c'était donc pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, par exemple, dans la fête de Pourim. Dans la fête de Pourim, on peut se poser la question, où est-ce que Akadosh Baruch Hu est présent dans la Megillah? Alors, vous allez me répondre évidemment, tout endroit où il est dit Hamelech, la Guémara dit Malko shel Olam, c'est le roi du monde. Et donc, ça veut dire que là où il y a écrit Hamelech, c'est Akadosh Baruch Hu, là où il n'y a pas écrit, il n'est pas là-bas. Mais la vérité est tout à fait différente. La vérité de la Megillah, c'est que Dieu est présent dans la Megillah depuis le début jusqu'à la fin. Comment le savoir? Parce qu'il n'est pas écrit du tout. C'est-à-dire, quand Dieu n'est pas présent, c'est là qu'il est présent. Il est présent à travers le voilement de sa face, qu'on appelle Hester Panim. Et donc, si vous voulez, il y a même un jeu de mots autour de ça, c'est quand on dit le rouleau d'Esther, Megillat Esther, c'est-à-dire la révélation du caché, Megaleh ha-Esther. Il révèle ce qui est caché. Qui est-ce qui est caché dans la Megillah? Eh bien, c'est le bon Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Alors là, je voudrais un peu approfondir avec votre autorisation, si vous n'avez pas de questions pour l'instant. C'est un enseignement chassidique de l'auteur du Bnei Issachar, le Rav Tzvi Elimelech de Dinov, qui pose la question autour du nom de la fête. Vous savez que dans la fête, dans la Megillah, il est dit Alken karou la'yamim ha'ele purim al shem ha'pur, c'est pourquoi on a appelé ces jours-là Purim, à cause du sort. Pour, en perse, veut dire le sort jeté par Aman. Et donc, on appelait la fête à cause de ce sort jeté par Aman. Question du Bnei Issachar, mais ça va pas la tête. Alors que toutes les fêtes sont appelées non pas à cause du malheur, mais à cause de la délivrance. Par exemple, la fête de Pessah est appelée Pessah parce que Dieu a dépassé a enjambé nos demeures pour ne pas porter atteinte à nos premiers-nés. C'est donc le sauvetage que nous mentionnons à Pessah. De même, la fête des Matzot. Matzot parce que nous avons consommé des Matzot en précipitation parce qu'on n'a pas eu le temps de les cuire, etc. De même, la fête de Soukhot s'appelle Soukhot à cause des Soukhot dans lesquelles, qui nous ont protégés lors de la sortie d'Égypte. Alors, dans ce cas-là, pour la fête de Pourim, ne devrait pas s'appeler Pourim, parce que le sort jeté par Aman, au contraire, était le malheur auquel nous devions nous confronter. Alors, pourquoi appeler la fête du nom de Pourim? Réponse du Bnei Issachar, parce que la délivrance a eu lieu lors du tirage au sort de Aman. En effet, qu'est-ce que fait Aman lorsqu'il lance le sort? Et il ne se rend pas compte que ça va tomber sur le mois de Hadar. Alors, d'abord, c'est quoi un tirage au sort? Un tirage au sort, c'est, par exemple, vous prenez un dé et vous le jetez. Vous ne savez pas sur quoi ça va tomber, sur le 1, le 2, le 3, le 4, 5 ou 6. De même, quand on parle du sort, ça veut dire un phénomène qui n'est pas déterminé à l'avance. Par exemple, vous avez un autre tirage au sort. C'est lors du jour de Kippour, lorsque le grand prêtre prend deux morceaux de papier sur lesquels il y a écrit l'Hachem et l'Azazel, il les mélange et il fait sortir un des deux petits bouts de papier qu'il met sur un des boucs et c'est comme ça qu'on sait quel bouc sera envoyé dans le désert et quel bouc sera sacrifié dans le temple. Or, ça, c'est un phénomène qu'on ne peut pas savoir à l'avance. C'est-à-dire, le grand prêtre ne sait pas quel bout de papier va lui sortir. Et donc, ça c'est un endroit où il n'y a pas de loi déterminée de la nature, mais c'est là qu'il y a une intervention de la providence. Et c'est pour ça que quand on dit « Hipil pour hu hagoral », quand la Megillah dit que Haman a fait tomber le pour, qui est le Goral. En fait, pour, c'est le mot perse, le mot Goral, c'est le mot en hébreu. Qu'est-ce que la Megillah nous ajoute? Elle veut dire, comprend que le sort jeté par Haman dans l'histoire de Purim, en fait, c'est le même pour, le même Goral qui agit lors du jour de Kippour dans le Beth Amikdash. Donc, il y a ici un phénomène extrêmement élevé d'une intervention directe de la Providence au-delà des lois de la nature. Et ça se passe lorsque Haman jette le sort et ça lui tombe sur le mois de Hadar. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans le mois de Hadar? Alors là, je vais me référer à un enseignement du Hari, Rabbi Yitzhak Luria, le grand kabbaliste, qui nous dit que chaque mois de l'année correspond à un autre organe du corps humain. Par exemple, le mois de Tishri correspond à la tête. Et Cheshvan et Kislev correspondent aux deux oreilles, etc. Qu'en est-il du mois de Hadar? Le mois de Hadar correspond au nez. Le nez qui est l'organe de l'odorat. Or, d'après les Midrashim, et aussi d'après le texte de la Torah, nous voyons que l'odorat n'a pas été impliqué dans la faute du premier homme. En effet, on vous dit là-bas que la femme a vu le fruit, donc les yeux ont été mêlés. Et à part ça, elle a entendu les paroles du serpent, donc il s'agit de l'ouïe. Elle a goûté du fruit, c'est donc le goût, etc. Mais il n'est jamais dit que l'odorat a été mélangé. Et donc, ça veut dire que l'odorat a été mêlé à la faute. Ah, il y a alerte Merkaz, hein, on vous dit tout de suite. Mais l'odorat, lui, n'a pas été mêlé. Et donc, c'est dans ce mois-là que la puissance du serpent qui a entraîné la faute de l'homme n'a pas de prise. Or, Haman a son origine dans la tentation du serpent dans le Gan Eden. Vous savez que la Guémara demande où est-ce que Haman est écrit dans la Torah? Et elle nous dit, c'est écrit dans Hamina et Sacher Amartilra Lviti Achol Mevino Achalta, est-ce que tu aurais mangé de l'arbre dont je t'ai dit de ne pas manger? Or, est-ce que c'est Hamina et est-ce que tu as pris Hamin, c'est les mêmes lettres que Haman. Donc Haman tire sa puissance de la chute du premier homme. Or, cette chute ne concerne pas le sens de l'odorat. Et donc, c'est un mois favorable à Israël. Ce qui veut donc dire que lorsqu'il a jeté le sort, c'était déjà la Géoula. C'est ça qui a permis finalement la libération. Ce qui veut dire que, et on appelle ce jour-là Pourim à cause du pour, qui est en lui-même la délivrance d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que la Megillah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne se divise pas en deux. Il y aurait une moitié de la Megillah qui serait le malheur, l'autre moitié de la Megillah qui serait la délivrance, mais pas du tout. Au moment du malheur commence la délivrance. Et donc, ça veut dire qu'il y a une unité profonde de la Megillah et que le Créateur du monde, qui se manifeste aussi bien à travers le bien qu'à travers le mal, est présent dans la Megillah depuis le début jusqu'à la fin. Il y a un verset dans la paracha de Bechukotai, qui, quand Dieu annonce les malheurs qu'il pourra faire tomber sur son peuple, il dit Lomeastim velogealtim lechalotam, je ne les ai pas abandonnés, même dans le pays de leurs ennemis. Ça veut dire quoi, je ne les ai pas abandonnés? Alors la Guémara dit, ben, c'est très simple, c'est qu'il a envoyé Daniel pour sauver les Juifs au temps de Babylone, et qu'il a envoyé Mordechai et Esther au moment des Perses pour les sauver de Haman, et qu'il a envoyé les Hashmonaïm au temps des Grecs pour nous sauver des Grecs, et qu'il nous a donné Rabbi Yehuda Hanassi et ses sages au temps de l'Empire romain, et de même de génération en génération. C'est-à-dire que Dieu ne nous abandonne pas puisqu'il nous envoie des messagers. Ah, donc ça commence à répondre à la question de David Altar. Est-ce que Dieu agit à travers des messagers? Et évidemment, la réponse est que c'est exactement ce que dit la Guémara. Et donc, ça explique également pourquoi est-ce que de temps en temps, il y a également des événements de type messianique qui sont portés par des hommes. Par exemple, nous avons dans la tradition l'idée qu'il y a deux messies dans l'histoire, ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, le messie fils de Joseph, le Messie de la descendance de David, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une présence de Dieu dans l'histoire à travers des hommes qui sont soit de la famille de Joseph, soit de la famille de David. Pourquoi c'est tellement important? Parce que nous sommes très souvent influencés par des idées christianisantes. Pour les chrétiens, le messianisme, c'est quelque chose qui appartient exclusivement à Dieu. L'homme n'est pas capable de faire sa délivrance. Et ce pourquoi? Parce que l'homme est pécheur dans son être. Comme il est pécheur dans son être, il ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin que ce soit Dieu lui-même qui s'incarne, Hasbe Shalom, pour le transformer, pour le sauver. Alors qu'en vérité, l'homme est fondamentalement bon, et le péché lui est extérieur. Donc c'est à l'homme qu'appartient le devoir de faire son messianisme, c'est-à-dire son sauvetage. Sinon, ça crée une sorte de dualité entre le monde divin et le monde humain qui est intolérable pour un vrai monothéiste. Soit dit en passant, j'ai pu entendre tout à l'heure, dans les dernières minutes du cours du Rav Fizon, la question posée par un chrétien qui dit: mais vous avez péché, donc vous avez perdu votre droit à la terre. Vous êtes parti en exil, et donc de quel droit vous revenez? Eh bien, ça dénote tout à fait justement de ces différences entre le christianisme et le judaïsme. Pour le judaïsme, le péché n'est pas quelque chose de fondamental, n'est pas quelque chose dans l'essence de l'être. On peut dire le péché est un accident. Or, ce qui est accidentel, obligatoirement, a une limite. Donc, même si Israël a mérité son exil, étant donné que cet exil a été mérité à cause d'une faute, une faute n'est jamais éternelle. Et donc, les conséquences de la faute ne peuvent pas être éternelles non plus. Et donc, ça veut dire que l'exil doit finir un jour. Et, Baruch HaShem, nous voyons que l'exil a fini. Maintenant, la réponse qu'a donnée l'interlocuteur de ce chrétien en disant: non, mais il y a des raisons géopolitiques et autres, ce n'est pas faux, parce que HaKadosh Baruch Hu agit à travers la politique dans l'histoire. Revenons à l'enseignement du Bnei Issachar. L'enseignement du Bnei Issachar qui est que le pour est en lui-même la délivrance. D'où est-ce qu'il le sait? Eh bien, il le sait parce qu'il a regardé dans la Torah, et que dans la Torah, on voit que le sens de l'odorat n'a pas été impliqué dans la faute du premier homme, ce qui a permis le sauvetage d'Israël. Mais d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les auteurs du miracle dans la Megillah ont tous des noms de baume. Par exemple, Hadassah, c'est la myrte, ça veut dire ce qui donne une bonne odeur. Mordechai, traduction de Meradachia, qui veut dire la myrrhe pure, qui donne également une bonne odeur. Donc c'est une Géoula qui passe par les bonnes odeurs. Et ça explique le verset extrêmement incompréhensible en hébreu, je reprends, qui est Alken karou layami ma'el et purim al shema pour. C'est pour ça qu'on a appelé ces jours-là Purim, à cause du pour. Et là, je vais devoir interrompre notre cours, étant donné qu'il y a une alerte à Jérusalem. Et donc, je vous souhaite
Vous
une
revenez
bonne
après
fête de
l'alerte quand
Purim.
même ou pas du tout? Alors, vous revenez après l'alerte?
Non, je pense que je ne reviendrai pas. Je ne peux pas savoir combien de temps ça va durer.
Bon.
Bon, passez une bonne fête.